Un texte qui servira de base à notre réflexion, d'autres textes suivront. Mais pour le moment, on va lire dans le livre des Proverbes, au chapitre 20 et au verset 6. Livre des Proverbes, le chapitre 20. Et le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Et j'attire votre attention sur cette question. Et considérons ce matin que c'est Dieu qui la pose. Un homme fidèle, remarquez, ça peut être une femme aussi, qui le trouvera? Voyez-vous, Dieu aimerait pouvoir trouver en nous donc des hommes et des femmes, des croyants en l'occurrence, fidèles. Et ce matin, nous examinerons cette nécessité de la fidélité dans trois domaines particuliers. La fidélité dans le cadre de l'engagement du mariage, car le mariage est un engagement. La fidélité dans le cadre de l'engagement du baptême, car le baptême est aussi un engagement. Et puis dans le cadre aussi du service que les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons accomplir pour la cause du Seigneur. Le terme fidèle, l'adjectif fidèle, est proche d'un autre avec lequel il est en relation, la foi. Vous voyez ? La fidélité et la foi, ce sont deux notions étroitement liées. C'est pourquoi, dans certains textes de la parole de Dieu, selon les versions, il est question de foi ou il est question de fidélité. Parce que être fidèle, c'est justement être digne de foi. C'est être digne de confiance. Être fidèle, c'est être fiable. C'est être quelqu'un sur lequel on peut compter. Faire preuve de fidélité, pour employer des synonymes, c'est persister. Persévérer, poursuivre, continuer, ne pas se lasser, ni se décourager, ne pas abandonner, ne pas cesser, ne pas renoncer, ne pas s'arrêter. Alors, comme je l'ai indiqué en préambule, considérons dans un premier temps la fidélité par rapport à l'engagement sacré du mariage. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 13, au verset 4, nous dit que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de toute souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères et les débauchés. Voyez-vous ? J'aimerais lire avec vous un texte qui se trouve dans le livre du prophète Malachie. Alors, ça se trouve juste avant l'évangile de Matthieu. Voyez, c'est le dernier des prophètes de l'Ancien Testament. Et nous lirons là, au chapitre 2, au verset 13, il est écrit ceci, Malachie, chapitre 2, verset 13, « Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. » Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Il y a une allusion à Abraham là. Prenez donc garde dans votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde dans votre esprit, et ne soyez pas infidèles. Amen. Ce passage, voyez, fait référence à une situation qui se produisait au sein du peuple d'Israël à l'époque dont où le prophète Malachie a rédigé son texte. Il est question là d'épouses légitimes qui étaient victimes de l'infidélité de leur conjoint, de leur mari. Alors c'est vrai, c'est l'Ancien Testament, mais quand même le grand principe demeure. Grand principe que Jésus lui-même rappelle dans le Nouveau Testament, et il dira ceci, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Et ça, ça va avec cette expression forte que nous trouvons dans le passage que nous venons de lire, où il est écrit, c'est Dieu qui parle, « Je hais la répudiation. Je hais la répudiation. » Bien sûr, quand il y a adultère chronique, ou quand il y a violence conjugale, parfois, c'est vrai, la séparation peut devenir inévitable, tout en sachant qu'il faut savoir pardonner, patienter, et même donner une autre, voire plusieurs autres chances aux coupables. Mais en dehors de ces cas extrêmes, les chrétiens, je voudrais le dire très fort ce matin, les chrétiens que nous sommes, parce que nous sommes des chrétiens encore, amen, ne doivent pas envisager le divorce comme une solution possible à leurs problèmes de couple. On peut avoir dans son couple, même au sein d'un couple chrétien, même lorsque le mari est réellement converti à Christ, l'épouse de même, on peut avoir des périodes de tension, des périodes où bien il y a un manque d'harmonie. Et vous savez, la solution que le monde propose, elle est simple. Eh bien, tu as qu'à mettre un terme à cette affaire. Et puis, j'ai entendu l'expression, pas ici mais ailleurs, tu referas ta vie. Tu referas ta vie. Comme si on pouvait, eh bien, d'un coup de gomme, tout effacer et repartir à zéro. Je crois, enfin, quand je dis je crois, non, pas je crois, pas je suppose, je suis convaincu que quand les difficultés graves surgissent, le premier recours que nous devons avoir en tant que chrétiens, c'est quoi d'après vous? Eh bien, c'est la prière. C'est la prière, voyez? La prière qui, par la grâce de Dieu, change tout, parce que nous avons un Dieu vivant. Hein? Ô toi qui écoutes la prière, et je vous assure que dans ce domaine précis, du mariage, des relations conjugales, n'est-ce pas, Dieu peut intervenir. La prière, la supplication adressée à un Dieu qui répond encore à la prière, et puis, répétons-le, savoir faire preuve de pardon, de miséricorde, de patience et de foi. J'ai parfois entendu, et parfois même de chrétiens, me dire « je ne l'aime plus, mon mari ou mon épouse. Alors, puisque je ne l'aime plus, puisque l'amour est mort, puisque les sentiments ne sont plus là, à quoi bon continuer ? À quoi bon continuer ? Mais, mes amis, Dieu peut rafraîchir notre amour l'un pour l'autre. Dieu peut renouveler notre amour l'un pour l'autre. Dieu peut nous aider à le maintenir, cet amour, jusqu'au bout. J'aimerais là aussi vous lire quelques textes de la parole, voyez. Quand on lit la Bible, au moins on est sûr de ne pas dire de bêtises, parce que c'est elle qui parle. Hein? Dans le livre des Proverbes, vous allez voir que Dieu, ne vous choquez pas de ce langage, c'est appeler les choses par leur nom. Et dans le livre des Proverbes, au chapitre 5, au verset 18, voici ce que l'homme de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, a pu nous laisser comme témoignage, comme exhortation, comme enseignement. Proverbes, chapitre 5, et verset 18, disons-nous. Voilà, nous y sommes. Il est écrit ceci, « Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour, et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, d'une païenne, quoi, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue ?» Voilà, vous voyez, en tout temps, en tout temps, en tout temps, en tout temps, sois en tout temps enivré de ses charmes. Dans le livre des Cantiques des Cantiques, on en parlait avec quelqu'un justement, juste avant ce culte. Au chapitre 8, voici ce que Salomon, puisque c'est lui l'auteur de ce texte remarquable, nous dit. Cantique des Cantiques, chapitre 8, et le verset 6. Le verset 6. Mets-moi comme un sceau scellé, un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Alléluia. L'amour est fort comme la mort. L'amour qu'on doit se porter dans le cadre du mariage, l'un pour l'autre. Rien ne doit, n'est-ce pas, l'estomper, le faire décliner, l'arrêter. Non, il est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Ses ardeurs sont des ardeurs de feu, une flamme de l'éternel. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Amen. Voilà. Et si cette flamme de l'amour conjugal avait diminué, eh bien, mes amis, par le souffle de l'Esprit, il peut ranimer la flamme. Alléluia. Il peut remettre des sentiments là où ils n'y sont plus guère, ou peut-être même plus du tout. Ça, c'est la parole de Dieu. Dans la société, dans le monde dans lequel nous évoluons les uns et les autres, l'adultère, l'infidélité conjugale sont considérés à tort, bien sûr, comme des banalités. C'est même un sujet de plaisanterie. Et certains du monde veulent nous faire croire que c'est inévitable que de temps en temps, eh bien, ma foi, on puisse se permettre une petite incartade. Non, non, non et non. On peut être tenté, c'est vrai, parce que nous sommes des êtres de chair, tout en étant des êtres spirituels. On peut être tenté, on peut même être l'objet de tentatives de séduction. Souvenez-vous de Joseph en Égypte, n'est-ce pas? La pression, l'influence pernicieuse de cette femme qui lui faisait jour après jour de mauvaises propositions. On peut être tenté. Mais à propos de la tentation, quand même, il faut revenir toujours à la parole de Dieu et ne pas trouver prétexte à la moindre occasion pour tomber dans le panneau. Parce que dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 3, voici ce qui nous est dit. Chapitre 10, verset 13, pardon, et non pas verset 3. Il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, lui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Voilà la parole de Dieu. J'aime un verset particulier d'un psaume qui dit ceci, « Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Dieu, me sert d'appui. » Vous savez, il y a des moments où c'est vrai, la tentation est si forte qu'on peut avoir l'impression qu'un moment de plus, et puis on va chavirer du mauvais côté. Rappelez-vous l'apôtre Pierre. Là, il franchit le bord de la barque, puisque Jésus marchait sur les eaux, et lui dit « Viens ». Et la Bible nous dit que voyant que le vent était fort et la mer houleuse, il eut peur et il s'enfonçait. Et alors qu'il s'enfonçait, n'est-ce pas, alors qu'il était sur le point de se laisser engloutir par les flots, il n'a eu que le temps de crier « Seigneur, sauve-moi !» Et le Seigneur l'a secouru. Et parfois, nous pourrions être submergés par les flots impétueux de la tentation du péché. Quand on en est là, mes amis, nous sommes faits pétris de chair les uns les autres. Quand on en est là, qu'on est à ce point de rupture, qu'on est sur le point de chavirer et de s'enfoncer, de sombrer, il est encore temps de demander grâce au Seigneur, de lui demander son secours, son intervention, pour qu'il nous arrache à notre propre misère. Et puis, vous savez, la parole de Dieu nous dit dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, verset 22, que le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. Et la tempérance, ça ne concerne pas exclusivement la modération dans l'usage des boissons alcoolisées. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Et ça s'applique dans toutes sortes de domaines, y compris dans celui que nous abordons ce matin. C'est le fruit de l'esprit. Donc, voyez-vous, être rempli de l'esprit, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, ce n'est pas quelque chose de facultatif, ce n'est pas un niveau spirituel réservé à une élite. Non, tous les chrétiens se doivent d'être remplis du Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est l'exhortation de l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et les spécialistes du texte grec, ce n'est pas mon cas, nous disent que dans ce verbe « soyez remplis du Saint-Esprit », il y a une idée de continuité, un petit peu comme si Dieu disait « mais soyez remplis et remplissez-vous continuellement du Saint-Esprit ». Ne vous contentez pas d'avoir vécu une expérience particulière il y a un certain temps, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit envahissant notre propre esprit et notre corps permettra que nous fassions ce que l'apôtre Paul faisait. Dans la première aux Corinthiens, au chapitre 9, tout prédicateur et tout apôtre qu'il était, il disait ceci, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Voilà. Voilà à quoi ça sert, l'action et l'onction du Saint-Esprit, reposant sur nos vies, sur nos cœurs, n'est-ce pas ? Je tiens mon corps assujetti, c'est-à-dire je ne m'abandonne pas aux tendances, aux désirs de ma nature charnelle. Et si je puis y résister à ces tendances-là, ce n'est pas parce que j'ai une force de caractère surhumaine, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu habite en moi. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, au verset 12, eh bien, le Seigneur nous adresse encore dans cette pensée une idée forte. Il nous dit ceci, « Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, c'est-à-dire si vous vous laissez aller, si vous vous laissez aller aux tendances de votre nature, de votre nature humaine, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Voilà, mes amis, le programme de Dieu. À propos de la tentation, il faut quand même dire, je l'ai dit, mais je le répète, qu'il y a quand même des lieux, des activités, des spectacles, des loisirs, des fréquentations qui exacerbent la chair, qui suscitent la tentation, qui provoquent la convoitise. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dira, n'est-ce pas, dans l'une de ses épîtres, qu'il nous faut fuir, mais oui, la corruption qui existe dans le monde. Fuir la corruption qui existe dans le monde. Il y a des moments où il faut savoir dire non. Je me refuse telle ou telle activité ou telle fréquentation ou tel lieu parce que je pourrais y trouver une occasion de chute. Oh, je suis plein de bonnes intentions. Je ne veux pas faire le mal. Mais Jésus n'a-t-il pas dit que même si l'esprit est bien disposé, la chair est faible, et que ce serait insensé, c'est aussi la parole de Dieu qui le dit, d'avoir confiance dans son propre cœur. Vous voulez un conseil ce matin? Méfiez-vous de vous-même. Parce qu'en nous, en chacun de nous, il y a tous les ingrédients, je vous assure, pour faire les pires bêtises. Voilà. Hormis, en dehors, bien sûr, de la grâce de Dieu, mais ceci étant dit, nous ajoutons aussi que la grâce de Dieu est là, amen, pour nous protéger et pour nous garder. Fidélité, dans le cadre de l'engagement du mariage. Et puis, deuxième point, fidélité dans le cadre de l'engagement du baptême. Dans le livre des Proverbes, vous voyez, j'aime bien le livre des Proverbes. Au chapitre 20, au verset 25, nous trouvons cette parole, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. C'est un piège. Et s'il est un engagement sacré, eh bien, c'est bien celui du baptême, n'est-ce pas? Parce que cet engagement-là concerne notre relation avec Dieu. C'est ce qui nous est rappelé, c'est un texte que beaucoup d'entre nous connaissons, dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, où il est dit que le baptême, ça n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et hélas, par les temps qui courent, trop souvent, certains croyants font preuve d'une grande désinvolture, d'une grande légèreté vis-à-vis de cet engagement sacré du baptême. On a fait profession de vouloir devenir chrétien. En étant plongé dans le baptistère, là, on a confessé sa foi dans le nom du Seigneur. On a pris cette décision de lui rester fidèle, justement, jusqu'à la fin de nos jours, de le suivre, de lui obéir, de l'aimer, de le servir. Et puis, on se ravise et on renie parfois bien, bien facilement cet engagement. Quel drame! Jésus a dit, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père et devant ses anges. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père et devant ses anges. Confesser le nom du Seigneur, c'est se réclamer de lui. C'est affirmer, c'est proclamer, c'est décider, c'est témoigner que nous avons choisi de faire de lui le Seigneur de notre vie et que nous le reconnaissons comme tel. C'est ça, confesser Jésus. C'est pas simplement une foi de pacotille, là, une petite pensée religieuse, c'est une prise de position. Et si nous prenons position fermement pour Jésus et que nous maintenions cette prise de position ferme et résolue tout au long de notre vie, un jour, le Seigneur que nous aurons reconnu comme tel dans nos vies nous reconnaîtra lui-même comme étant véritablement ses disciples. Et devant son Père, il dira, « Celui-là m'appartient. Celle-ci est à moi. Je l'ai sauvé. Je l'ai racheté. Il a cru. Elle s'est repentie. Ils ont persévéré dans leur engagement. Ils ont été fidèles. Ils sont dignes d'entrer dans le royaume céleste. » Mais malheur à nous, malheur à ceux qui renient cet engagement. Jésus dit, je les renierai devant mon Père. Oh, que ce serait terrible que de comparaître devant lui et de s'entendre dire, je ne te connais pas, retire-toi de moi. Et ça, ce sera le sort des renégats, quoi. Des renégats, n'est-ce pas? Alors, on peut aussi, je précise ça, renier le Seigneur en acte plutôt qu'en parole. Vous voyez? Parce que peut-être on n'aura pas le triste courage de dire, allez, je renonce à ma foi. Mais on peut fort bien renier le Seigneur en acte sans pour autant l'avoir renié en parole. Je voudrais dire aussi, parce que c'est l'enseignement de la parole de Dieu, non pas le mien propre, que notre fidélité envers Dieu est étroitement lié à la fidélité envers l'Église de Dieu. C'est pour ça que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 25, il est dit, n'abandonnons point notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Tiens, déjà à l'époque, il y en a, vous voyez, qui pour un oui, pour un non, eh bien, voilà, faisaient l'Église buissonnière. abandonné leur attachement à l'Église. C'est faux et illusoire de dire, comme on l'entend parfois, je l'ai entendu, j'abandonne l'Église parce que, mais pas le Seigneur. Ayons envers notre Église et tous ceux qui la composent, frères et sœurs, un attachement profond. Il y a quelque part dans une épître de Pierre cette exhortation, aimez-vous ardemment, les uns les autres, de tout votre cœur. Aimez-vous ardemment les uns et les autres de tout votre cœur. Aimez l'Église. Aimez vos frères et sœurs. Aimez l'Église même si elle est encore, mais on en est tous convaincus, bien loin d'être parfaite. Ah, il ne s'agit pas de s'en accommoder, de dire c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Il faut bien sûr travailler avec le secours de la grâce de Dieu à la sanctification de l'Église et à la nôtre propre en particulier. Mais, vous savez, l'Épître aux Éphésiens nous dit que cette Église, le Seigneur, la fera paraître un jour devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et nous devons avoir foi dans l'action du Seigneur qui agit, qui est à l'œuvre parmi les siens. Dieu n'a pas les bras croisés en regardant le spectacle, en disant « Voyons s'ils vont se tirer d'affaire. C'est pas brillant. Hein? Voyons s'ils vont faire quelques progrès tiens, en 2017 ou alors si ça va empirer. » Non, non, mes amis, Dieu est actif par son esprit, par sa parole, dans la mesure, bien sûr, où nous le laissons travailler en chacun d'entre nous. Attention, la fidélité dans notre engagement vis-à-vis du baptême ne se limite pas, bien sûr, à participer plus ou moins régulièrement au rassemblement des croyants. Non. Le baptême, on l'a dit, j'ai répété ce verset, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus, dans l'évangile de Matthieu, dit à ses apôtres, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », il ajoute « Et enseignez-leur à observer, c'est-à-dire à pratiquer, à mettre en application tout ce que je vous ai prescrit. » Voilà, tout ce que je vous ai prescrit. Il ne s'agit pas de se contenter d'une obéissance partielle, de dire, ma foi, moi dans la Bible, je prends ce qui me plaît. Je fais une sélection, je trie. Alors je me contente d'obéir dans certains domaines, et puis d'autres, je trouve que quand même c'est un peu contraignant. Le Seigneur exagère un petit peu, alors je m'abstiens. Non, mes amis, on est fidèle à l'engagement du baptême quand on persiste dans cette démarche qui consiste à vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu d'une manière de plus en plus rigoureuse, scrupuleuse. C'est vrai, nous avons nos luttes et nos combats, mais il faut savoir fléchir le genou devant Dieu et dire, Seigneur, triomphe de moi. Aide-moi même à vouloir ce que je ne veux pas et que je puisse par ta grâce faire plier ma volonté aux paroles de ta bouche. Sinon, si on n'a pas cette démarche, eh bien, comme dit Paul dans un texte, on perd notre bonne conscience. Voilà. Et l'Épître à Timothée nous dit que, faisant ainsi, perdant leur bonne conscience, certains ont fini par faire naufrage par rapport à la foi. Que c'est triste un naufrage. Que c'est catastrophique un naufrage. C'est une tragédie un naufrage. Et quand ça concerne le naufrage par rapport à la foi, c'est encore plus triste. Que personne parmi nous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. J'ai pris un engagement un jour, pour certains il n'y a pas très longtemps, pour d'autres il y a bien longtemps, l'engagement de suivre le Seigneur jusqu'au bout. Il faut s'en tenir là, frères et sœurs. Nous sommes engagés. Et devant Dieu, même si c'est il y a 50 ans pour certains, c'est aussi frais que si ça venait de se produire il y a une heure ou deux. Seigneur, fais-nous grâce pour qu'on se retrouve tous là-haut. Amen. Vous voulez pas ça? hein, que tous ceux qui sont ici et d'autres avec, on puisse un jour se retrouver dans le royaume des cieux et se congratuler mutuellement en disant, frère, sœur, je suis tellement heureux de te voir là, hein, et de te voir et de nous voir ensemble avec Jésus. Alors soyons fidèles et allons jusqu'au bout du chemin. Et puis, pour terminer, après la fidélité dans l'engagement du baptême, fidélité dans le cadre du mariage, la fidélité dans le service. Je voudrais lire avec vous un autre texte dans la première aux Corinthiens, au chapitre 4, au verset 1er. Première aux Corinthiens, chapitre 4, et le verset 1er. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Dieu ou de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dans la Rome antique, c'est-à-dire au moment où l'apôtre Paul a rédigé ce texte, les dispensateurs étaient des serviteurs, en fait des esclaves, qui administraient, qui géraient les biens de leur maître. Voilà, ce n'était pas leur bien à eux, c'était les biens du maître. Mais ils avaient la responsabilité de s'acquitter de leur service, de leur gestion, de leur administration avec un sérieux absolu, avec une fidélité exemplaire et totale, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le cas. Nous sommes des dispensateurs. Nous sommes, chacun d'entre nous, en tout cas, ça doit être le cas, des serviteurs de tous les chrétiens, tous ceux qui accomplissent dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, un service, qui servent, eh bien, sont des dispensateurs à la disposition de leur maître. C'est l'apôtre Pierre qui va rebondir sur cette pensée dans sa première épître au chapitre 4 et au verset 10. Écoutez voir ce qu'il nous raconte, Pierre. 1 Pierre 4, verset 10, voilà, il est écrit ceci. Comme de bons dispensateurs, voyez, on y revient, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, le mot ministère veut dire service tout simplement, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il y a diverses formes de service en fonction des diverses aptitudes que nous avons reçues de la part du Seigneur. Et je voudrais dire ce matin qu'aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petits services, ni de petits serviteurs. N'est-ce pas? Voilà. Le Seigneur Jésus dira dans l'évangile de Luc que celui qui est fidèle dans les moindres choses, il l'est aussi dans les grandes. Et inversement, celui qui est infidèle dans les petites choses, il l'est aussi dans les grandes. Servir avec fidélité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avec zèle. Dans l'idée de zèle, il y a l'idée d'empressement. Le désir de bien faire, et d'être prompt à servir. Voyez, Dieu puisse trouver en nous cette promptitude, cet élan, ce désir. Seigneur, voilà, ma vie est à ta disposition parce que je veux te servir. Servir avec fidélité, c'est servir avec soin. avec application, avec ferveur, avec sérieux, avec cœur, et finalement, plus que tout, avec amour. Amen. L'amour que nous portons au Seigneur, mais l'amour que nous devons nous porter les uns aux autres. D'ailleurs, quelque part, il est écrit, « Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Vous savez, être fidèle, ça peut être des choses très simples. Je vais mentionner des choses très précises. Tenez, si par exemple je suis inscrit dans l'équipe du ménage, être fidèle, ça consiste à regarder sur le panneau d'affichage quel est mon tour de service afin de ne pas le faire sauter. Parce que si moi je ne fais pas mon boulot, il faudra que quelqu'un le fasse à ma place. C'est pareil pour la liste de la garderie, c'est pareil pour toutes sortes d'activités de ce genre, vous voyez. Être fidèle, c'est pour l'œuvre de Dieu. Et parce que c'est pour l'œuvre de Dieu, je dois le faire avec soin, non pas avec des désinvolture en disant « Bon, ça ira toujours après tout, c'est pour le Seigneur ». Alors, c'est pour le Seigneur, ça ne doit pas être un prétexte à la médiocrité, non. L'apôtre Paul dira à Timothée, applique-toi. Je ne sais pas si vous avez ce souvenir quand vous étiez à l'école primaire, à la communale, hein, et que peut-être vous appreniez à tracer vos premières lettres et que le maître ou la maîtresse se penchait par-dessus votre épaule et vous disait, applique-toi. Ça veut dire ce que tu fais, mon gars ou ma fille, fais-le bien, fais-le avec soin. Eh bien, c'est dans cet état d'esprit qu'il faut servir. Il faut servir le Seigneur. Nous pouvons, dans le cas du service de Dieu, il faut le dire, connaître des déceptions. Des déceptions parce que, quand nous servons le Seigneur, les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de nos attentes. Voilà, Seigneur, j'ai distribué des centaines, que dis-je, des milliers de prospectus. Et puis, le fruit de tout cela, il me paraît bien maigre. Mais, vous savez, c'est plus la fidélité que le résultat que le Seigneur appréciera. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, il y a cette parabole des talents. Le Seigneur donne 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Et quand il fait rendre compte à ses serviteurs quant à la manière dont ils ont fait fructifier les talents qu'ils ont reçus, les capacités de service, le premier qui en a reçu 5 en reçoit 5 autres. Et ils s'entendirent, c'est bien bon et fidèle serviteur. Le deuxième qui en a reçu 2 en reçoit 2 de plus. Voilà, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. C'est la fidélité que Dieu apprécie. Les résultats, après tout, lui appartiennent, quoique, quand il y a fidélité, tôt ou tard, et même si nous n'en sommes pas toujours conscients, et même si nous ne le percevons pas toujours immédiatement, tôt ou tard, eh bien, il y aura des résultats, même s'ils ne sont pas, je le répète, immédiatement visibles. Enfin, il ne faut pas se faire d'illusions, le service va de pair avec la souffrance. Avec la souffrance. Paul disait à Timothée, « Souffre avec moi pour l'Évangile. » Souffre. Comme un bon soldat de Jésus-Christ, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des enfers de la vie s'il veut plaire à celui qu'il a enrôlé. Le soldat romain, voyez, qui s'engageait dans les légions de l'Empire, savait qu'il aurait des combats à livrer. Et par avance, il devait être prêt même à faire le sacrifice de sa vie. C'était le tarif, ça faisait partie du service. Même s'il ne s'agit pas de mourir, eh bien, on peut connaître la souffrance. Oh, parfois on a servi de tout son cœur et on ne récolte que l'ingratitude. Parfois on a servi de tout son cœur et on ne récolte que la critique, l'incompréhension. Parfois on a servi de tout son cœur et on ne récolte que la jalousie. Je vous concède que tout ça, ça fait mal. C'est la souffrance qui est liée au service. Mais il ne faut pas trouver prétexte dans ces affaires-là pour dire, puisque c'est comme ça, puisque j'ai été critiqué, jalousé, méprisé, puisque on n'a pas su me reconnaître la qualité, le sérieux de mon service. Allez, j'abandonne tout. Non, non. C'est le Seigneur que nous servons. Et même si les hommes sont ingrats, et c'est souvent le cas, Dieu ne l'est pas. Et il saura, en son temps, nous accorder les récompenses méritées. Je termine en disant ceci, c'est que la fidélité du Seigneur à notre égard constitue le fondement et la garantie de la nôtre. C'est parce que Dieu est fidèle qu'il me rendra fidèle. Dans la première aux Thessaloniciens, chapitre 5, au verset 23, il est dit ceci, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Et l'apôtre ajoute, le Seigneur est fidèle et c'est lui qui le fera. C'est lui qui le fera. Il travaille dans nos vies, il travaille dans ma vie, par sa parole, si tout au moins je la reçois, par son esprit, si tout au moins je lui laisse avoir accès à mon cœur, pour me rendre fidèle. D'ailleurs, puisque nous parlons de l'esprit, dans l'Épître aux Galates, encore, concernant le fruit de l'esprit, il est dit que le fruit de l'esprit, c'est justement la fidélité. Le Dieu fidèle est capable de nous rendre fidèles. Amen. C'est vrai pour le domaine du mariage, c'est vrai quant à l'engagement du baptême, et c'est vrai également quant au service que nous pouvons accomplir pour la cause de Dieu, que le Seigneur en soit béni et glorifié. Amen. Je vais demander à Romaric de prier, de terminer par la prière, s'il vous plaît.